Alors effectivement, j'ai choisi de faire des études de cinéma, mais en Belgique, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas grand-chose comme école en Suisse. Maintenant, il y a beaucoup plus d'offres, il y a beaucoup plus de possibilités. Et moi, dès le début, je voulais faire une formation technique. Je ne voulais pas partir dans une formation plus généraliste de réalisatrice. Donc il y avait soit en Belgique, soit en Angleterre, soit en France. Mais la Belgique, ça m'a paru assez adéquat, en fait. Et du coup, j'ai été visiter l'école et je me suis présentée au concours d'entrée. J'ai pas essayé l'INSAS, qui est l'autre école en Belgique. Donc moi, j'ai fait l'IAD en Belgique. Pourquoi? Simplement parce que c'était presque un peu la superstition, parce que j'avais des amis plus âgés qui étaient au collège avec moi, qui avaient essayé cette école, qui l'avaient ratée. Donc j'ai dit, moi, je vais pas l'essayer pour ne pas la rater. Enfin, c'est absurde comme réflexion, mais voilà. Donc en fait, j'avais essayé l'IAD. J'avais quand même essayé. À l'époque, ça s'appelait l'ESBA, je crois, à Genève, la HED actuelle, en fait, mais ça avait un autre nom, je crois que c'était l'ESBA quand j'ai essayé. J'avais été prise à l'ESBA, puis j'ai passé le concours en Belgique, je pensais pas être prise, puis en fait, si ça marchait, donc du jour au lendemain, ben, il a fallu partir. Donc voilà, ça c'était le choix premier. Après, je connaissais absolument pas la Belgique, mais c'était une très très bonne surprise, je pense que c'est un endroit fabuleux pour aller faire des études, encore maintenant d'ailleurs, je trouve. Et puis j'avais choisi l'image. Je suis partie quand j'étais visiter l'école pour le montage. Je me disais, on va aller visiter, et puis la section montage, ça a l'air chouette et tout. Puis en fait, non plus ça allait, puis je me disais, non, mais moi, c'est pas le montage, j'adore ça, hein, je trouve que c'est fabuleux. Mais pour moi, c'est un métier un peu trop solitaire. Et pour le pratiquer, je me suis dit, non, mais c'est l'image qui m'intéresse. Et du coup, voilà, au final, je me suis inscrite dans la section image. Mes parents étaient dans le domaine, mon père était producteur, réalisateur à la RTS, et ma mère était monteuse. Et elle n'a pas monté des Tanner, mais elle a monté des Goretta. Elle a monté entre autres Jean-Luc Persécuté. Voilà, entre autres. Et donc, bon, eux, ils avaient été dans le domaine. Ma mère, elle a arrêté quand j'avais 3 ans, parce que à l'époque, c'était pas si facile, il n'y avait pas tellement de crèches et tout. Donc, voilà, c'est encore un peu la vieille école au niveau de la maman qui reste à la maison, surtout qu'on vivait à la campagne, et puis mon père qui continue à travailler. Elle a arrêté le montage, je pense que c'était une erreur, elle aurait dû continuer parce que c'est vraiment quelque chose qu'elle adorait. Mais bon, j'avais un petit peu ce background-là. Après, c'est pas forcément que je me suis dit tout de suite c'est ça qui m'intéresse, mais disons que j'ai un peu baigné dedans quand même. Et puis j'hésitais avec. Enfin, quand j'ai fait le collège à Genève et tout, et puis là j'étais assez attirée par tout ce qui était un peu scientifique. La biologie m'intéressait, l'astronomie m'intéressait. Et puis bon, finalement, pas suffisamment non plus pour vraiment partir là-dedans. Enfin, quoique ça aurait pu, mais disons qu'au moment du choix, la question du cinéma est revenue. En plus, j'étais dans un cours facultatif de cinéma au collège, et ça m'a pas mal redonné l'envie, d'où les amis qui avaient raté l'INSAS. Et puis, ben voilà, après, je me suis dit, ben, je vais essayer ça, en fait aussi, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, au fond, et c'est parti comme ça. Alors, je pense que, bon, c'était une période où c'était un métier qui s'ouvrait aux femmes. C'est vrai qu'il y avait peu. Je pense qu'en Belgique, il n'y avait pas encore vraiment de femmes chefs opératrices, mais en France, il y en avait déjà. Il y avait, entre autres, Caroline Champetier, je sais pas, Agnès Godard. Cette génération-là, en fait, c'était déjà passée, finissait d'être assistante et commençait à être chef-op. Et puis du coup, le métier, entre autres, d'assistante caméra, surtout, ça commençait à être un peu à s'ouvrir. Et c'était surtout très bien accueilli aussi. Je pense que dans les équipes d'image, entre autres, il n'y avait tellement pas assez de femmes que les hommes avaient été aussi très contents que ça se diversifie un peu. Donc voilà. Et donc on a un peu bénéficié, je pense, un peu du travail de leader des pionnières qui ont commencé à pratiquer ce métier. Bon, il y en a eu encore avant, hein, ça a toujours existé, mais disons, c'est vrai, ça a toujours été très minoritaire. Et puis voilà. Donc en fait, dans ma classe, on était beaucoup de filles. En fait, on était pas mal de filles. Mais c'est vrai, la volée d'avant, il n'y en avait qu'une. Et encore celle d'avant, je pense qu'il n'y en avait pas. Enfin, c'est vrai que ça a commencé à devenir plus une moyenne comme ça, je pense, avec la volée dans laquelle j'étais. C'est vrai que comme moi, je me suis... À ce moment-là, je ne me disais pas, tiens, je fais un métier qui est plutôt fait par des hommes. C'était pas thématisé comme ça. Et les modèles, ils pouvaient être de tout ordre. Et pour moi, il n'y avait pas vraiment se dire, bon, il y a ces femmes-là, on va faire comme elles. C'était pas ça. Maintenant, effectivement, d'un peu bousculer certaines conventions, puis de prendre un métier qui... Où il y avait d'habitude plus d'hommes. C'est vrai qu'il y avait un côté attrayant, mais plus un peu ludique comme ça. Mais au fond, je ne me suis pas dit, je veux être comme Agnès Godard ou comme. C'était plutôt ben, à l'image, il y a des chefs opérateurs, dont par exemple Renato Verta, qui sont très impressionnants dans leur image. Et ça peut être. C'était plus ça le modèle, mais je ne réfléchissais pas homme-femme, en fait. Je dirais, par rapport à un modèle. J'ai fait ces études, ça a duré 3 ans. J'avais commencé aussi en Belgique à travailler sur des projets avec un chef opérateur belge qui s'appelle Michel Houssiot, qui faisait de la pub. Et avec lui, j'ai vraiment commencé à travailler dans le domaine, encore à l'école. Quand j'étais en deuxième de l'IAD, je travaillais déjà avec lui comme assistante caméra. C'est vraiment lui qui m'a mis le pied à l'étrier, on va dire. Du coup, j'avais plus fait mon trou là-bas. Mais mon problème à moi, c'était que j'étais suisse, c'est rien d'autre. Donc en fait, pour travailler dans la pub, ça pose pas vraiment de problème. On peut bidouiller des choses, mais travailler sur des projets qui sont des projets d'État au fond, parce que le cinéma étant subventionné, évidemment, c'est de l'argent qui est pas privé. Et là, ça posait problème avec ma nationalité, à part s'il y avait des coproductions, mais. Sinon, en tant que pure Suisse, pour travailler sur un projet pur belge, ça n'allait pas. Donc en fait, bon, moi, en sortant de l'école, là, je suis rentrée quand même, parce que je suis rentrée en Suisse dans un premier temps, parce qu'il y avait une autre chose que j'avais un peu développée, qui était que j'avais fait des études, enfin que j'avais été marionnettiste. C'est-à-dire, entre la fin du collège puis les années à l'IAD, j'avais fait une année sabbatique dans laquelle j'avais travaillé aux marionnettes de Genève comme marionnettiste de marionnettes à fil. Puis là, le théâtre m'a rappelé parce qu'ils avaient besoin, ils devaient remplacer un marionnettiste qui était parti. Et puis j'ai un peu hésité, puis finalement je suis rentrée, mais pour faire ça. Puis après, je savais toujours pas où je voulais m'installer. C'est vrai que c'était compliqué en Belgique. Mais en Belgique, comme j'avais bossé là-bas, ils m'ont rappelé. Je bossais aussi chez un loueur de caméras. Je préparais des caméras et tout ça. Enfin, pour des assistants qui venaient faire des essais pour partir sur des différents projets. Et eux m'ont rappelé parce qu'ils avaient aussi besoin d'un remplaçant pour quelques semaines. Donc je suis retournée en Belgique pour ça, en logeant chez des amis et en étant un peu nomade comme ça. Et puis là, je suis restée. J'ai plus quasi plus rentré pendant 1 an et demi. Et j'ai bossé chez ce loueur. J'ai continué à travailler avec ce chef opérateur en pub. J'ai travaillé aussi avec d'autres, mais toujours en pub. Et puis j'ai travaillé aussi avec un système qui s'appelle Flying Cam, qui est un système de prise de vue par hélicoptère téléguidé. Et donc voilà, entre ces différentes choses, en fait, j'avais du boulot en Belgique. Et du coup, la rencontre avec Tanner, ben ça s'est fait. Maintenant, je sais plus si c'est via la production, mais je crois que c'est plus par le chef-op. Le premier, c'était Requiem, c'était donc Hugues Riffel, qui était chef opérateur. Moi, je connaissais bien Hugues aussi par Philippe Cordet, qui a aussi travaillé pas mal sur des films de Tanner, entre autres comme assistant caméra de Hugues, justement. Oui, je crois que c'est comme ça que ça s'est fait. Philippe pouvait pas faire le film, il lui passait chef-op gentiment. Et du coup, j'ai remplacé Philippe chez Hugues, si je ne me trompe pas. Et puis, bon, c'était Gérard Ruet qui produisait. On se connaissait aussi d'autres projets. Et puis voilà, les choses se sont faites. Et du coup, ben, c'est eux qui m'ont introduit dans l'équipe. Et de fait, ben, après, j'ai rencontré Tanner. C'est pas que j'ai rencontré Tanner et puis il m'a proposé d'être assistante caméra. Ça ne se passe pas comme ça. Ou rarement, ça peut, hein, mais c'est. C'est souvent par le chef-op ou la production dans ce poste-là qu'on est intégré dans un projet. C'est pas un réalisateur qui s'entoure d'une équipe énorme. Il a besoin d'avoir une petite équipe autour de lui. Enfin, du coup, effectivement, il y avait cette fidélité. Puis d'ailleurs, dans l'équipe, il y avait quasi souvent, toujours, sa fille, entre autres, au maquillage. Donc, il y a cette question aussi un petit peu de la famille, en fait. Et c'est Si je ne me trompe pas, je crois que la première fois que j'ai travaillé comme assistante sur ce projet, avant lui, il a demandé à ce qu'on, ce que je viens de manger chez lui. Donc on était tout un groupe du film, mais c'était aussi pour un peu construire cette famille. C'est quelque chose qui se sentait très fort, quoi, comme quoi il avait besoin de cette famille autour de lui. Et du coup, même le soir, c'était compliqué de ne pas aller manger le soir avec lui. Alors que des fois, sur un tournage, le soir, on se dit, oh, bon, on va aller un peu enfin, voir autre chose. Mais pour lui, c'était important que l'équipe vienne manger avec lui aussi, quoi. Donc, voilà, donc c'était un peu. Il y avait un petit côté autoritaire à ça aussi, de dire, bon, bah, rendez-vous à telle heure dans le hall. Puis, mais en même temps, personne n'osait dire non ou avait vraiment envie de dire non. Tout en se disant, bah, peut-être que, mais voilà, c'était ça, c'est une particularité vraiment. C'est ce côté famille, moi je dirais, plus que, enfin, dans sa fidélité, c'est de constituer une famille. Mais disons que la famille qui constitue lui, c'est plutôt avec les chefs de poste, c'est plus avec le chef, avec le preneur de son, avec le chef opérateur, avec ben, bon, ses filles qui, soit pour l'une, jouaient dans ses films, soit pour l'autre, étaient maquilleuses. Son assistante réelle, qui était entre autres Anne Deluze pendant un certain temps. Je ne sais pas combien elle en a fait. Elle. Enfin bon, c'était surtout les gens qui étaient direct, qui avaient directement affaire à lui. C'est clair qu'en tant qu'assistante caméra, ben moi, bien sûr, je le vois et je peux discuter avec lui, ce n'est pas interdit. Mais disons que j'ai affaire au chef opérateur. Donc je pense que pour lui, ce n'était pas forcément. Enfin, ça le dérangeait certainement moins que ça change à ce niveau-là, que ça change au niveau de la caméra, enfin, du chef opérateur. Voilà. Là, ce qui est particulier, c'est que c'est une petite équipe. Ce qui est particulier, c'est qu'il y a des membres de sa famille qui étaient dans l'équipe. C'est aussi parce qu'on est en Suisse, donc le côté famille, il est un petit peu plus accentué que quand on est dans une grosse production française ou autre. Mais je sais pas, je pense à Jean-Pierre Améris en France, avec qui j'ai pu travailler comme assistante et aussi comme chef opératrice. Lui, il a aussi sa famille. Simplement, enfin, il a aussi son équipe attitrée, ses fidélités. Mais simplement, c'est des tournages où il y a tout de suite beaucoup plus de monde. Donc, ça se sent peut-être pas autant. Mais je pense que la fidélité, oui. Bah, de toute façon, les réalisateurs ou réalisatrices qui ont des équipes avec qui elles s'entendent bien ou ils s'entendent bien, c'est important. Voilà, c'est aussi ça, de changer, des fois c'est perturbant. Et puis si ça se passe bien, ben c'est tout ça de gagner pour aller plus avant avec un projet, quoi. Donc ça se fait beaucoup quand même d'être fidèle dans ce domaine. Quand on est, par exemple, sur un projet, qu'on est engagé sur un film, puis qu'on est avec toute une équipe dont on fait la connaissance, que ce soit Tanner ou quelqu'un d'autre, c'est clair que si soi-même on a ensuite un projet qu'on doit réaliser, bien sûr qu'on va s'entourer souvent de gens avec qui on a des affinités, et un tournage précédent peut aussi déclencher ça, quoi, ces liens-là, quoi. Ça, c'est sûr, bien sûr, mais ça, c'est tout tournage. Puis après, ben, on se sent bien que telle personne, puis on se refait son. Je pense tout réalisateur a sa famille qui peut être plus ou moins élargie. Puis après, ce qui peut un petit peu contrecarrer ça, c'est les questions de coproduction. Parce que là, il y a des impératifs de quotas, de personnes qui travaillent. Et ça peut un tout petit peu modifier voilà, l'organisation, enfin, ou la composition d'une équipe. Mais je pense, par exemple, Tanner, bon, il était en coproduction avec le Portugal souvent. Il y avait toute une petite équipe portugaise qui était là, mais je suis pas sûre qu'il aurait évincé ceux avec qui il travaillait le plus souvent à cause d'une copro. Enfin, ça aurait été, je pense, complexe pour lui, quoi. Effectivement, il y a des rencontres qui se sont faites, il y a une confiance aussi qui peut-être s'est installée avec la production, qui du coup aussi m'a proposé d'autres projets aussi en connaissance de cause. Ça, c'est aussi une espèce de chemin qui arrive souvent au cinéma, c'est qu'on est introduit quelque part par une personne. Par exemple, un chef-op dit, voilà, j'aimerais travailler avec tel assistant. Puis après, ben, la production se dit, ah ben, tel assistant, ça marche plutôt bien. Justement, j'ai une copro avec la France. Là, en l'occurrence, il y en avait une avec Piccoli, enfin, avec un film de Piccoli. Ben, je peux proposer, comme je dois proposer des techniciens suisses, ben, c'est une personne que je pourrais proposer. Par exemple. Donc, bien sûr, ça fait boule de neige comme ça, puis ça, c'est un peu. Et c'est vrai pour tous les films. Après, d'avoir pu travailler sur un film de Tanner, c'est plus sentimental, on va dire. C'est-à-dire que c'est quand même des grandes figures du cinéma suisse. Et puis, du coup, ça fait plaisir de... Enfin, oui, c'est comme un honneur, ça fait plaisir de se dire qu'on a été sur un des films d'un de ces personnages-là, quoi. Donc, à ce titre-là, ça a de l'importance pour moi. On n'était pas beaucoup d'assistants non plus, hein, donc d'assistants caméra. Et Denis Hutzeler, je le connaissais aussi d'autres. Enfin, lui, je ne sais pas si j'avais tellement fait de trucs avant avec lui, mais il y a eu plusieurs fois où ça a failli, etc. Mais en tout cas, c'est un petit milieu, hein, tout le monde se connaît un petit peu. Du coup, ben, quand Denis a cherché un assistant, il m'a proposé. Je pense. Et là, je sais plus exactement si c'est aussi la prod qui a proposé, mais toujours est-il qu'il y avait une forme de logique. Et donc, c'est plutôt que Tanner a pu travailler là avec. Je ne sais pas la raison pour laquelle c'est Denis et pas Hugues qui a fait, qui a fait Jonas et Lila demain. Mais toujours est-il que pour le poste que j'avais, ben, on passait de toute façon hein, d'un chef opérateur à l'autre, quoi. Il n'y avait pas assez de films pour, comme en France, être tout le temps sur des films avec un seul chef opérateur. Quand on est assistant caméra, déjà, en principe, il y a un ou deux assistants. Il y a le premier, il y a le deuxième. Le premier, il est responsable de la caméra, de la mise au point, surtout. Ça, c'est son grand job qui est vraiment réservé au premier assistant, c'est-à-dire de suivre au point tous les mouvements. Mais il doit aussi faire fonctionner la caméra, mettre les réglages demandés dans la caméra, vérifier que tout fonctionne techniquement, charger et décharger les magasins. Et s'il y a un deuxième, s'il n'y a pas de deuxième, ce qui était le cas sur les Tanner, de charger et décharger les magasins en chambre noire aussi. Quand il y a un deuxième, ben ça c'est le travail du deuxième assistant, c'est de charger et décharger les magasins, de gérer les rushs, de faire les décomptes et tout ça. Là, c'est des petites équipes, donc effectivement, comme assistant, on faisait les deux choses. Mais en même temps, le rythme des tournages de Tanner permettait tout à fait, parce que c'était pas qu'on enchaînait les prises et qu'on devait faire un minutage énorme par jour. Donc, c'était tout à fait possible de faire ça. Puis en plus, dans les deux cas, on était en 16 mm, en Super 16, on n'était pas en 35. Donc, c'est aussi une manutention qui est un petit peu plus légère, parce qu'on n'a pas des grosses caisses, on a des plus petites caisses du fait que c'est plus petit. Quand on est en 35, on n'a pas de deuxième assistant, c'est compliqué quand il faut enfin, transporter tout le matériel et tout ça, parce que pour changer un objectif, on a trois caisses, alors que en 16, c'est un petit peu plus compact, quoi. Voilà. Donc, l'assistant caméra, c'est ça. Puis après, il y a effectivement la relation avec le chef opérateur qui peut varier. Il y a des chefs opérateurs avec lesquels on discute beaucoup de l'image, et il y en a d'autres moins. Il y en a d'autres, il y en a certains qui demandent des compétences supplémentaires. Par exemple, pour Jonas et Lila à demain, avec Denis. Denis allait faire du steadicam. Et donc, il m'a demandé de me former pour pouvoir rééquilibrer le steadicam, vu qu'on n'avait pas de machinot et tout. Donc, j'ai pu avoir accès à une petite formation en France, chez le loueur du steadicam. Et donc, voilà, ça a été une petite chose que j'ai dû apprendre avec grand plaisir d'ailleurs, hein, parce que ça, c'est toujours chouette de. Lui a demandé ça, par exemple. Après, il y a des chefs-op qui demandent aussi d'être beaucoup plus. Ouais, d'être très attentif aux constructions lumière, de proposer des choses et tout. Il y en a d'autres qui n'ont pas du tout envie qu'on intervienne ou qu'on donne notre avis à ce propos. Donc ça, c'est quelque chose qu'on découvre aussi à force de travailler avec quelqu'un. Après, il y a aussi au niveau de la manière dont on travaille le point, il y a des chefs opérateurs qui ont une exigence différente d'un autre. Il y en a qui vont pas supporter qu'on tire le décamètre, par exemple. Bon, maintenant, ça se fait plus comme ça, mais à l'époque, en pellicule, c'était encore comme ça. Maintenant, on regarde. Enfin, la technique a beaucoup changé aussi sur comment faire le point en numérique. Mais à l'époque, on mesurait, ou bien on se mettait des marques, ou bien qu'est-ce qu'on avait d'autre comme. On pouvait aussi faire le point à l'œilleton, des choses comme ça. Il y avait des chefs-op qui n'aiment pas du tout qu'on se mette à l'œilleton pour faire le point, par exemple. Donc là, c'est automatiquement, il faut tirer le décamètre, on ne peut pas vérifier un point en prenant le ton. Voilà. Ça, c'est des petits détails qui font que dans cette collaboration, il y a des variantes. Et l'assistant caméra, il est aussi responsable de la préparation du matériel, donc faire tous les tests caméra préalables, généralement c'est 1 à 2 semaines avant le tournage, voir, et puis aussi les essais lumière, ben ça c'est le chef opérateur qui les fait, mais avec l'assistant caméra qui s'occupe du matériel image, quoi. En tout cas, sur Requiem, c'était beaucoup des plans séquences.
Oui, c'est ça.
Donc après, ben voilà, on arrive sur lieu, la lumière, tout, il fait quel temps, hop, pour lui, tout à coup, c'était de là à là, effectivement. Puis il y avait beaucoup, beaucoup de travelling. Puis il avait un peu un truc comme ça où il faisait plusieurs fois le même travelling sur la même scène ou des choses du genre. Donc, oui, alors ça, c'est vrai. Ça, c'est tout à fait vrai. Ouais. Et ça, ben, ça allait aussi parce qu'il n'y avait pas. Il y avait une somme de choses à tourner par jour qui n'était pas juste impensable, quoi, qui n'était pas trop énorme pour justement se laisser cette liberté-là. Par exemple, sur un téléfilm où il faut faire 7 minutes utiles par jour, on ne peut pas se permettre de faire ça. Là, c'est obligé que ce soit hyper prévu ou si le découpage est hyper bétonné, quand même, ça va très vite. On n'a plus le temps tellement de réfléchir au moment du tournage. Tandis que lui, ben, il avait le temps de réfléchir pendant le tournage. Après, peut-être qu'il y avait quand même aussi, parce que je sais que nous, on a fini plus tôt que prévu. Alors, il y avait des jours de réserve pour des questions de météo. Mais il y a peut-être aussi des fois où il avait prévu une scène, puis finalement on en a fait deux dans la même journée, parce que finalement une était faite plus vite que prévu. Et puis du coup, on a en fait gagné du temps par rapport. Et je sais qu'il y a eu aussi quelques repérages en cours de tournage. Donc c'est vrai qu'il y avait des choses qui se décidaient quand même sur le moment et pendant le tournage, quoi. Ça, c'est vrai. Mais ça, le temps le permettait et enfin, les jours à disposition pour tourner le permettaient. Moi, je me rappelle d'une scène très frustrante, en fait, parce que c'était super beau. On était sur les docks à Lisbonne. On tournait avec Maria da Fé, qui est une chanteuse de fado. Et dans l'histoire, je sais même pas si le truc. Je crois pas que la scène est dans le film final, en fait, parce qu'elle était un peu hors norme, cette scène. Mais peut-être qu'elle y est. Maintenant, mais en tout cas, le personnage principal, c'est vers la fin du film. Il erre sur les docks, toujours à la recherche, etc. Et là, il croise un groupe de chanteurs de fado. Et puis, ces chanteurs, dont Maria da Fé, se mettent à chanter pour lui. Et là, il y avait tout un mouvement, ben, justement, qu'on a fait au Steadicam. C'était pas Hugues Riefel qui le faisait, c'était un Steadicammer portugais. Et c'était assez complexe parce que ça bougeait beaucoup. Pour moi, au point, c'était compliqué parce qu'il y avait peu de profondeur de champ. Donc, on ne peut pas prendre vraiment des mesures précises. On est beaucoup à l'estimation pour la distance. Et puis en même temps, il y avait tout un jeu d'approcher, reculer. Enfin, c'était vraiment un ballet, comme ça, avec le Steadicam et ses joueurs de fado. Et on a fait une première prise qui était mais juste magique, quoi. Tout s'est hyper bien déroulé. C'était très émouvant, en fait. Enfin, la scène était émouvante et tout le monde était dedans, techniquement aussi. Du coup, il y avait comme une espèce de tout comme ça qui était juste magique. Elle avait été répétée avant, on avait été mangé, puis on était venu à l'heure précise où il voulait la tourner, qui était un peu entre chien et loup, vraiment à la tombée de la nuit. Et puis, on s'attendait à en faire une deuxième. Et puis Tanner, il a dit non, bah non, c'est bon, on rentre à l'hôtel. Et tout le monde, enfin, et je pense que tout le monde a été frustré. Pas, peu importe si on avait, c'était juste le plaisir de la refaire en fait, avec les acteurs, avec ces musiciens. Peu importe d'avoir une deuxième prise ou pas. Et là, je me rappelle que tout le monde est resté un peu posé là, en se disant ah mince, on aurait bien voulu revivre ça, quoi, revivre ce moment magique, même si la première prise serait celle qui était dans le film. Donc voilà. Donc pour dire non, s'il avait ce qu'il voulait, il passait à la suite. Il ne faisait pas des variantes infinies. Lui, il s'était décidé d'une certaine façon, même s'il décidait sur le moment. Après, il faisait ça et il ne faisait pas 12 000 variantes, ça c'est sûr. Et une fois qu'il estimait qu'il avait ce qu'il voulait, en tout cas sur les derniers films, peut-être c'était pas comme ça au début hein, aussi, parce qu'il était déjà plus tout jeune non plus, donc il avait moins d'endurance aussi sur un plateau, je pense. Je pense qu'il était plus vite fatigué, puis que du coup, s'il avait ce qu'il voulait, il n'allait pas faire durer le plaisir, on va dire. Mais non, généralement, c'était plutôt très, très ciblé. Une fois que c'était choisi, ciblé, on le faisait. Si c'était bon, c'était bon, quoi. On était beaucoup en extérieur. Il y avait quelques plans, quelques séquences intérieures, mais il y avait beaucoup de plans extérieurs. Et donc, tous les plans extérieurs, ben, ils devaient tourner à peu près dans les heures qui étaient crédibles, enfin, qui étaient réelles par rapport à celles qui étaient énoncées dans l'histoire. Donc, après, puis l'avantage, ben, à Lisbonne ou au Portugal, c'est que c'est pas un temps, on n'est pas en Belgique où il fait beau, il pleut, il fait beau, il pleut. C'est vraiment un temps qui est très vite établi. Donc, ça a pas été, il n'y a pas eu vraiment de gros problèmes de météo qui nous ont empêchés de tourner quelque chose. Et du coup, qui. Alors, après, dans le plan de travail, maintenant, ça, je sais plus exactement comment il était construit, mais. Je peux tout à fait imaginer ben, que les scènes extérieures qui devaient tourner à une certaine heure étaient tournées à ces heures-là, puis que c'était complété avec des scènes qui devaient tourner soit plus tard, soit par des scènes intérieures où là, ben, on pouvait fabriquer lors de la journée qu'on voulait. Et puis si les scènes intérieures, pour certaines, elles étaient, il me semble qu'il y en avait une qui était très dans la pénombre, comme ça, si je ne me trompe pas, mais enfin voilà. Mais ça se construit, ou en tout cas, ça peut se gérer, enfin, se fabriquer. Tandis que la position du soleil, ça, non, on ne peut pas. Donc, ça, il faut juste être là au bon moment. Donc, prévoir le temps qu'il faut avant pour être prêt. Puis ensuite, ben, par exemple, cette histoire de chanteur de fado, c'était vraiment à la tombée de la nuit. Ça, c'est assez court. Hein. Je pense qu'on aurait pu la faire 3 fois ou un truc comme ça. Donc, enfin, oui, c'était tombée de la nuit. Ou bien c'était vraiment nuit. Non, je pense que c'était tombée de la nuit parce qu'on avait pas installer tellement de choses, je sais plus même. Enfin bon, toujours est-il que ça, c'était des heures qui étaient choisies, quoi, vraiment. Et puis on devait vraiment faire en sorte d'être prêt pour cette tranche horaire-là. Alors ça, c'est peut-être la difficulté, c'est de bien réfléchir comment on prépare les choses et être prêt là quand il faut. Mais ça, c'est toujours. Et généralement, au début de journée, mais je pense que c'était aussi le cas avec Tanner. On répète la scène avec les acteurs dans le décor. Donc les acteurs prennent possession du décor, répètent leur scène. Le réalisateur, ben, c'est là qu'il choisit comment il veut filmer, si c'est pas prédéterminé, comment il veut filmer sa scène. Et donc à ce moment, on détermine, OK, ben, on va faire toute cette ligne de texte qui dure ce trajet-là, par exemple. Et puis on commence le travelling-là, on le finit là. Puis une fois ça décidé, ben, il y a un temps d'installation. Et puis une fois que l'appareil de prise de vue est installé, que le travelling est installé, on refait une répétition pour recaler le timing de chaque chose. Et puis une fois que ça c'est bon, ben on le tourne en fait. Donc là, ce que je me rappelle par rapport à ces fameux travelling avant qu'on faisait dans Requiem, c'est que je pense qu'on ne les répétait pas. On savait que le personnage était par exemple assis dans un fauteuil puis qu'on allait faire des travelling avant dessus. Et puis il y avait un timing, ça c'est par contre qui était assez clair de vitesse du travelling, parce que c'était plus ça qui dictait en fait pour pas que d'une scène à l'autre on soit avec tout à coup un travelling qui va très vite, l'autre qui va hyper lentement. C'était plus une espèce de continuité dans le mouvement qui était importante, aussi dans l'idée de cette journée qui se déroule. Donc c'était pas tellement d'arriver à la fin de telle partie du texte. C'est plus la vitesse du travelling qui devait correspondre aux autres scènes qui faisait qu'on arrivait à tel moment du texte. Et à ce moment, on repartait au début, donc on refaisait une fois le. Je sais plus si c'était des allers-retours. Et les endroits, c'était des allers-retours. Il me semble qu'il y a eu ça. Et puis il y en avait d'autres, on faisait cut et on repartait en large et puis on se réavançait. Voilà. Donc ça, c'était pas tellement le texte par rapport, mais c'était plus de garder cette dynamique d'un travelling à l'autre. Et ça, c'est souvent la script qui doit être très minutieuse, de bien se rappeler du tempo pour pouvoir vraiment le reconduire d'une scène à l'autre et pas qu'on se retrouve avec des choses qui tout à coup détonnent un peu parce que c'est pas tout à fait la même ambiance que la scène d'avant alors qu'il y a cette notion de continuité. Pour l'assistant caméra, il y a un moment où il va prendre ses marques, il va prendre ses points. Donc, par rapport à l'avancée, il voit à peu près à quel où seront les acteurs, mais ça, il fait sans les acteurs, tu vois. On a fait une répétition avec eux, on a vu un peu comment. Et donc, on se prend des points, voire des marques, qu'on pose au sol. Alors, il y a des fois, c'est vraiment des choses très, très, très précises où on peut vraiment dire, voilà, à tel moment du travelling, les acteurs sont là. Mais après, c'est aussi on peut se dire à tel moment du traveling, les acteurs sont environ là. Et du coup, le truc, c'est de se mettre au sol quelques marques où on peut estimer, enfin, on a des références pour ensuite estimer, OK, ils sont 10 cm plus en avant, ils sont 10 cm plus en arrière, et on peut ajuster au point. Au point, même si on a des marques, la dimension d'estimer quelque chose, elle est toujours là. Il y a des pointeurs extrêmement bons qui n'ont pas besoin de mesurer et qui peuvent tout de suite dire, ici, il y a 1,82 m, tu vois, entre nous deux, et puis qui vont avoir cette mesure dans l'œil affûtée. Quand on est assistant, on se l'affûte un peu, on se fait des exercices pour... Mais disons que voilà, après le travail, il repose et sur les marques qu'on peut prendre et sur cette estimation-là avec laquelle on peut aussi travailler. Et dans un cas d'un plan séquence avec des déplacements assez complexes, ben, plus c'est complexe et plus ça doit être précis, plus ça se répète et plus ça permet ensuite d'éliminer certaines surprises. Puis il y a d'autres fois où on se dit, OK, le mouvement, ça va être ça. Puis les acteurs, ben, peut-être tout à coup, ils font un petit peu différemment de ce qu'ils ont pensé. C'est pas pour autant qu'on dit cut, tout s'arrête, etc. Non, ben, chacun doit être autant au cadre qu'au point. On doit être capable de pouvoir aussi réagir à ça et de se dire, OK, bon, ils sont 1 mètre plus près que ce qu'ils étaient avant. Et puis pour le cadreur, ben, ils sont plus serrés dans le cadre qu'avant. Mais peut-être que c'est magique aussi. Donc il y a toujours cette dimension, peut-être on va dire, en fiction de documentaire. C'est-à-dire aucune scène n'est juste qu'une somme de choses décidées. C'est souvent aussi la réalité qui se reconstruit à chaque fois. Enfin, moi, en tout cas, c'est un truc que je me dis à chaque fois et que je me suis toujours dit, et aussi grâce à un autre chef-op avec qui j'ai travaillé, qui m'a vraiment inculqué ça. Dire, OK, on est en fiction, mais dis-toi que chaque plan, c'est comme si on était en documentaire. Tu dois le redécouvrir avec la même spontanéité que quand, si, on était en documentaire. Et ça ajoute quelque chose aussi dans l'image. Je trouve que c'est un truc intéressant dans le cinéma en général et dans l'histoire du cinéma en général, comment l'écriture se modifie aussi en fonction des avancées techniques, que ce soit la sensibilité des appareils de prise de vue. Bon, maintenant on est en numérique, mais il y a toujours des petits changements. Et puis de la taille des objets qui peuvent éclairer. Maintenant avec le LED, on ne fait plus du tout la même lumière qu'on faisait dans les années 30, 40. Ben, alors il y avait un style de l'époque, mais il y avait aussi un matériel qui imposait un style. Et donc je pense que pour Tanner, c'est aussi ça qui s'est passé. C'est qu'au fil de sa carrière, ben, tout a évolué, ce qui a permis de faire les choses de manière aussi beaucoup plus spontanée. Et puis ça, il a aimé faire ça. Je pense Fourbi, ça a été fait aussi de manière assez... spontané comme ça. D'ailleurs,
Ouais,
c'est Utzeler, hein.
c'est
Ouais.
aussi du Super 16. C'est
Exactement.
la première fois qu'il revient,
Voilà.
qu'il redescend
Ouais. Et le Super 16, ben, ça permet, par exemple, pour le point, ça permet aussi d'être plus dans l'improvisation. Parce que la profondeur de champ est plus grande. Enfin, on est un plus petit capteur. Donc, c'est des objectifs qui sont des moins longues focales. Donc, comme la profondeur de champ, elle est liée à la longueur à la focale, en fait. On aura moins de profondeur de champ avec un 85 mm qu'avec un 25 mm, par exemple. Ben, si on a plus de profondeur de champ, on peut aussi plus facilement partir en freestyle en disant, OK, ben, on est à l'épaule, on court après, on fait le point au feeling. Il y a quand même, c'est pas ça la zone de point, c'est ça, quoi. Donc, ça permet quand même d'avoir une petite sécurité pour que ce soit pas tout flou. Enfin, voilà, et puis qu'on puisse être dans plus de liberté. Donc oui, je pense que, ben, d'ailleurs, je crois tous, hein, ils ont un petit peu eu cette envie au fur et à mesure de l'évolution du matériel. C'est clair qu'au départ, le 35, tout ça, c'est beau, c'est tout, mais c'est lourd, quoi. C'est une grosse machine, quoi. Ouais. Sur les films où il y a effectivement des scènes de nu ou des scènes d'amour qui sont filmées, c'est clair que là, ben, il y a une forme d'attention qui est mise sur la pudeur des acteurs. Puis c'est pas là qu'il y aura toute l'équipe qui sera en train de zioter comment ça se passe. Généralement, on installe les choses. Puis après, toutes les personnes qui n'ont rien à faire sur le plateau, ben, elles sont pas là. Après, c'est sûr qu'il y a des acteurs pour qui ça a une énorme importance, puis même ceux qui restent, c'est déjà presque encore trop. Et puis il y en a pour d'autres où c'est moins important, qui sont moins gênés par ça. Ça, c'est très personnel. Mais En général, c'est évidemment des scènes où il y a une attention qui est portée pour rester correcte. À partir des années 2000, là, on m'a plus proposé de faire des films à la caméra. Et donc, j'ai commencé à faire ça majoritairement. J'ai fait encore quelques films comme assistante caméra, puis j'ai arrêté. Voilà. Mais ça, c'est un peu. Bon, c'était une envie de toute façon de passer chef opératrice, mais exactement à quel moment, c'est un peu les circonstances qui tout à coup font qu'on bascule de l'un à l'autre, quoi. Ouais. Et puis après, ben, j'ai continué ben, en doc, en fiction, les deux. J'ai pas tellement fait de pub. À partir du moment où je suis revenue sur la Suisse, la pub, elle se faisait plutôt à Zurich. Moi, j'habitais pas Zurich, mais donc j'ai pas fait beaucoup de pubs. Puis après, j'ai pas cherché à en faire tellement plus. Non, après, j'ai continué ben, à la caméra en tant que chef opératrice ouais, sur du doc ou de la fiction. Puis là, ça continue. Puis depuis quelques années, j'ai commencé aussi à réaliser. Et puis voilà. Je trouve que mon regard aussi sur mon travail de chef opératrice, il a évolué en étant moi-même. Réalisatrice sur certains projets. Je vois aussi, je comprends mieux certaines attentes aussi de quelqu'un d'autre. Mais si je me retrouve chef opératrice sur un projet, je vais pas réaliser. Enfin, je vais pas commencer à plus savoir où est ma place. Je serais très contente de faire que l'image, mais avec une discussion, une relation adéquate avec un réalisateur ou une réalisatrice. C'est-à-dire, ouais, de trouver effectivement là où ça se joint, où on a besoin de pouvoir échanger, quoi. Moi, je suis dans la commission, j'ai été pendant pas mal de temps dans la commission de l'OFC pour l'octroi des subventions pour les films documentaires. Et là, alors, je peux certifier qu'il n'y a pas de misogynie ou quoi, qu'il y a vraiment une volonté à la fois d'essayer d'être 50-50 ou d'approcher ça, mais des fois, on ne peut pas parce qu'il n'y a pas non plus forcément les films. Puis en même temps, de vraiment juger les films pour ce qu'ils sont et pas avant tout de se dire, tiens, est-ce que c'est un homme ou une femme qui réalise, par exemple. Après, j'ai eu des cas où on était un peu surpris que pour tel sujet, il n'y ait que des hommes interviewés. Donc, ça a pu faire partie de remarques qu'on a faites. Tiens, pourquoi est-ce que par rapport à ce sujet, vous n'avez pas non plus quelques personnages féminins qui peuvent s'exprimer? Mais pour dire que il y a une conscience de ça.
Oui.
Et puis une envie d'arriver vers une parité. En tout cas, dans ces commissions, ils sont très ouverts à ça. Et même, c'est une obligation. C'est pas un beau mot, mais j'entends que si ça fait partie des choses qu'il faut qu'on regarde et auxquelles il faut faire attention. Voilà. Donc là, en tout cas, il y a une volonté d'essayer de ne pas être discriminant ou quoi que ce soit.